I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on tripa, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Quand on devient mère, on a ce besoin viscéral de protéger ses enfants, qu'il ne leur arrive jamais rien et qu'ils soient en excellente santé. C'est le goal ultime de la maternité et la part aussi qu'on maîtrise le moins, hélas. Samantha a vécu les débuts de sa première grossesse assez angoissée, avec la peur que son bébé aille mal, qu'elle fasse une fausse couche. Et c'est lors de l'échographie du deuxième trimestre que le coup de massue tombe, son bébé a un problème au cœur, une cardiopathie congénitale. Si cette malformation peut être plus ou moins légère, on annonce à Samantha que son bébé devra être opéré à la naissance, sinon il ne survivra pas. Voilà avec quel poids elle va devoir poursuivre ses derniers mois de grossesse. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, son mari, isolé à cause du Covid, ne pourra pas l'accompagner à l'accouchement. C'est finalement sa maman qui sera présente le jour J pour cet accouchement par voie basse programmé et déclenché. Dans cet épisode, Samantha nous raconte comment elle a vécu sa grossesse sous haute tension, sa rencontre furtive avec son bébé emmené immédiatement en réa, comment elle a jonglé entre la fatigue de son accouchement, la peur pour son bébé et les nouvelles à donner à son mari resté à domicile, mais aussi l'opération du cœur de son petit garçon et ses premiers pas dans sa nouvelle vie de maman. Bonne écoute.
Bonjour Samantha.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Mais de rien.
Alors, tu es la maman d'un petit garçon. Quel âge il a ?
Alors, si on parle en mois, il aura 20 mois dans 2 jours, exactement.
On va revenir au tout début, toi, avant de devenir maman. Quel regard tu portais sur la maternité ? Est-ce que tu as toujours voulu être maman ou c'est arrivé un peu comme ça ?
Je pense que j'ai toujours voulu être maman, mais par contre, j'étais pas spécialement pressée.
Ouais.
Je me suis pas dit à 22 ans, j'aurai un enfant, parce que si, parce que ça, je me suis dit, j'aurai un enfant, au moins un jour.
Ouais, il n'y avait pas de pression. Et alors, tu as rencontré ton mari. À quel moment le sujet est arrivé entre vous, le sujet de la parentalité ?
À la fois assez rapidement, dans le sens où, pareil, on s'est dit, on aura un enfant un jour, sans se dire, faut qu'on soit marié d'abord, etc. Même si, au final, on s'est mariés avant d'avoir un enfant, mais c'était plus après une question d'être pragmatique. Le travail un peu plus stable, etc., plus que l'âge ou le temps. On voulait juste pouvoir accueillir un enfant de manière convenable et pas être en galère. Et puis du coup, c'est arrivé quand c'est arrivé.
Ouais. Ça n'a pas été une grosse décision entre vous ?
Bah non, parce que pour le coup, je pense que si j'avais obtenu mon CDI plus tôt, on aurait eu un enfant plus tôt. C'était plus une question que lui soit pas seul à assumer les finances de la famille. Parce que, en fait, j'ai repris mes études et j'ai eu mon diplôme à 28 ans, donc il fallait d'abord que moi-même, je m'installe un peu dans le monde du travail avant.
Et alors, tu tombes enceinte, est-ce que ça a été facile pour toi de tomber enceinte ou t'as attendu un petit peu ?
Bah, alors, par rapport à certains, on peut dire que c'est rapide parce que 8 mois.
Oui.
Mais c'est vrai que dans ma tête, j'arrêtais la pilule, un mois après j'étais enceinte. Hein. Donc, je me disais que je devais avoir un problème, que jamais je serais enceinte, etc. Parce que je suis de nature très très anxieuse.
Oui.
Donc, je me disais que j'avais un problème. Alors que non, c'est juste normal qu'on a pris la pilule, etc., pendant des années, que ça arrive pas à la seconde. C'est pas pour tout le monde, au bout de 15 jours, paf, voilà.
Ouais.
T'as fait des analyses ou pas ou t'as
bah, même pas, parce que mon gynéco m'avait dit d'attendre un an, et si au bout d'un an ça marchait pas, là on ferait des analyses. Ça a mis 8 mois, donc voilà, pas besoin.
Comment tu as vécu cette grande nouvelle au bout de 8 mois, quand le bâtonnet a affiché les deux barres roses?
Bah, en fait, c'était très drôle parce que j'ai rêvé que j'étais enceinte. Enfin, j'ai rêvé que je faisais un test qui était positif et que je me disais oh, « Mon Dieu, on a picolé la veille et je suis enceinte, c'est horrible, etc. » Et du coup, quand je me suis réveillée le matin, je me suis dit « Mais t'es complètement folle. Comme tu as fait un rêve, là, tu vas faire un test. » Alors qu'en fait, c'était totalement un rêve.
Ouais.
Enfin, je me suis dit t'es débile, ma pauvre fille. Sauf qu'en fait, ce test était également positif dans la vraie vie aussi.
Et t'avais picolé la veille?
Pas la veille, mais une semaine avant. Donc, j'étais en panique aussi, ouais. Du coup, comme dans mon rêve.
Un rêve prémonitoire.
Ouais, c'est ça. C'est assez rigolo. Donc, je sais pas si c'était une intuition ou quoi, mais ouais, c'était marrant.
Et alors, comment s'est passée ta grossesse?
Bah, du coup... Vu que je suis quelqu'un de très stressé, le premier trimestre, clairement, angoisse, chaque douleur. En plus, j'ai eu des très grosses douleurs ligamentaires. Donc, à chaque fois, je me disais, il y a un problème, je perds le bébé, etc. Et puis, ouais, la fatigue. En fait, tout ce qu'on appelle les petits maux de grossesse, c'est pas des petits maux, c'est pas vrai. C'était vraiment difficile. Et encore, j'ai eu la chance, comme je dis toujours, j'ai jamais vomi.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose que je tiens à souligner parce que c'est rare et j'ai eu cette chance-là. Mais oui, surtout les douleurs. Et puis bon, au final, le bébé, lui, il allait très bien. C'est mon corps qui prenait un peu cher. Quoi, ouais. Mais... Ouais, les premiers mois, c'était du stress, des douleurs. Mais enfin, oui, pensez à faire attention à tout ce qui est alimentation, etc. J'ai la chance, entre guillemets, d'être végétarienne. Donc j'avais juste à faire attention au fromage que je mangeais. Donc pas trop de pression là-dessus. Évidemment, j'ai plus bu une goutte ni fumé une cigarette à la seconde où j'ai vu le test positif, et puis voilà. Mais oui, angoisse, bah, beaucoup d'angoisse, mais au final j'avais peut-être pas tort. Parce que donc à la T2, j'étais chez un sage-femme échographiste, donc lui il est pas du tout spécialisé dans une pathologie ou quoi. Il me faisait mon échographie, et puis c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, c'est quelqu'un voilà, qui peut paraître un peu froid, mais bon, en tout cas la suite nous aura prouvé que c'est quelqu'un qui est très très bon dans son domaine. Le jour de la T2, c'était le 6 décembre 2019, je m'en souviens très bien.
Donc c'était la découverte du sexe?
Oui, alors la confirmation du sexe.
La confirmation.
Parce qu'il nous avait déjà fait une estimation, bon, je me méfiais de l'estimation... Parce que je connais des gens, on leur a dit garçon, au final c'était une fille. Donc moi, si on me dit garçon, je me disais, attendons. Donc il nous a confirmé que c'était un garçon. Et ça, pour le coup, je le sentais vraiment au fond de moi, je savais que c'était un garçon. Donc quand il nous a dit, oui, c'est bien un garçon, je sais. Je le sais depuis le mois de juillet, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, hein, vous inquiétez pas pour ça. Mais par contre, oui, il a passé beaucoup de temps. Je voyais qu'il était concentré, beaucoup de temps sur le cœur. Sauf que j'osais pas l'interrompre, surtout qu'il était concentré. Mais bon, dans ma tête, j'avais envie de le prendre, de le secouer, de lui dire qu'est-ce qu'il y a avec le cœur, quoi.
Ouais, tu sentais qu'il y avait quelque chose.
Parce que c'est pas normal de passer autant de temps sur le cœur et pas sur les autres organes.
Donc t'entendais le cœur, toi, qui
oui,
battait.
Oui, il y avait un flux, le cœur battait... Et donc, une fois qu'il a fini, là, on s'installe à son bureau. Parce que j'étais avec mon mari, c'était l'époque avant Covid. Donc, on pouvait y aller à deux. Et oui, et d'ailleurs, mon mari, il m'a accompagnée à tous mes rendez-vous sage-femme, toutes mes échographies, etc. Il a été hyper présent. Et pas que parce que j'avais pas le permis, c'est parce qu'il avait envie d'être impliqué aussi. Et donc... Pour en revenir à cette T2, là, en fait, il nous dit qu'il n'arrive pas à voir des petits vaisseaux au niveau du cœur, les veines pulmonaires. Bon. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il nous dit que ça peut arriver parce qu'à ce stade-là de la grossesse, c'est tout petit. Donc, on fera une écho de contrôle dans 3 semaines. Quelques temps après, j'ai eu un rendez-vous avec ma sage-femme. Ma sage-femme qui nous confirme qu'effectivement, c'est petit à ce stade-là, donc on verra l'écho de contrôle.
Comment tu le vis, ça, toi, cette...
Bah, sur le coup, en fait, je reste digne, entre guillemets, mais j'ai tellement pleuré dans la voiture après parce que je me suis dit, c'est fini, quoi.
Ah oui.
Enfin, tout ce dont j'angoissais depuis le test positif, toutes mes pires angoisses étaient en train d'arriver, clairement, parce que je me suis dit, bah, ouais, mon bébé, il va mourir. Il a un truc, je le sais. Mais bon, comme il y avait quand même le côté rassurant et du sage-femme échographiste et de ma sage-femme qui disait, bon, c'est encore trop petit à ce stade-là, on verra à l'écho de contrôle. L'écho de contrôle, c'était le 2 janvier. Donc déjà que j'étais enceinte, que j'avais mal partout. Si j'avais écouté ma sage-femme, le 28 novembre, elle m'arrêtait. Moi, je voulais poursuivre. J'avais des projets à terminer avant mon congé maternité et je les avais entamés, il fallait que je les finisse. Donc, j'ai bossé en plus entre Noël et le jour de l'an.
Ok.
Et donc, le 2 janvier, après le travail, on y va. Et là, pareil, c'est long et il me fait mal. Mais pendant une semaine, j'avais mal au ventre comme si on m'avait tapé. Mais parce qu'en fait, le bébé montrait son dos alors qu'on essayait de regarder son cœur. Mmh. Donc c'était super compliqué de pouvoir voir en détail le cœur alors que c'était ça qui était problématique.
Donc c'est quoi, il t'appuyait très fort?
Il appuyait très fort et moi pour le coup j'étais tellement angoissée que je l'ai laissé faire. Il m'avait dit n'hésitez pas évidemment à dire si je vous fais mal. Moi j'ai rien dit parce que...
Tu voulais savoir.
Voilà, ouais. J'étais en mode faites votre boulot, moi on s'en fiche, je veux juste savoir comment va le bébé quoi. Faut qu'on voit ce qu'a son cœur. Donc encore une fois, ça dure très longtemps. Peut-être 1h30, si je dis pas de bêtises. Et depuis ce jour-là, je me dis très clairement que c'est pas grave quand je vais voir un médecin si j'attends, parce qu'il y a peut-être des gens comme moi qui ont un problème, que la personne a pris son temps pour faire le diagnostic, pour lui expliquer les choses, etc. Donc je râle pas quand j'attends, même si ça me saoule parce que j'ai une vie et que s'il y a du retard, ça engendre des trucs...
Ouais.
Parce que je sais que quelqu'un a peut-être un truc grave et que la personne prend le temps pour elle. Et donc nous, il nous réunit à son bureau, mon mari et moi. Et là, il nous explique qu'il y a toute une... Enfin, qu'il y a plusieurs anomalies, en fait, au niveau du cœur du bébé. Donc déjà, il n'arrive toujours pas à voir les vaisseaux pulmonaires. Il voit qu'il y a une oreillette qui n'a pas la forme qu'elle devrait avoir. Et il voit aussi un vaisseau surnuméraire. Parce que du coup, au niveau de ce qui s'appelle la coupe des trois vaisseaux, qui est un truc qui est vérifié au niveau du cœur, normalement, il y a trois vaisseaux. Et là, il y en avait quatre.
D'accord.
Donc, avec toutes ces infos, il nous fait un super compte-rendu d'échographie. Et il nous dit, bon, en gros, on a deux choix. C'est où... attendre de voir le prochain contrôle à la maternité dans laquelle j'étais inscrite à côté de chez moi, qui serait du coup avec un obstétricien, qui peut-être lui-même nous enverrait voir une cardio, enfin un ou une cardiopédiatre, ou alors de prendre directement rendez-vous avec une cardiopédiatre en l'occurrence. C'est le choix qu'on a fait parce qu'on s'est dit pourquoi attendre, autant prendre le rendez-vous avec la spécialiste directement, qui nous a donné ses coordonnées. Moi, ma mission, en gros, c'était d'appeler, de lire le compte-rendu, parce qu'évidemment, ce sont des termes médicaux, donc j'y comprends pas grand-chose, et de prendre un rendez-vous. Alors moi, évidemment, je suis allée sur Google... J'ai tapé tous les mots que je comprenais pas qui étaient dans le compte rendu d'échographie. Alors j'ai fait le diagnostic de mon fils en croisant les données comme ça. J'espérais me tromper parce que ce que je trouvais c'était vraiment très très alarmant. Clairement, je tombais que sur des sites médicaux qui parlaient de cardiopathie congénitale. Et c'est pas quelque chose qu'on a envie de lire, mais là, de toute façon, on en est à un stade où il y a un problème avec le cœur du bébé. Alors, mon mari, qui est beaucoup plus optimiste que moi, tant qu'il n'a pas vu la cardiopédiatre, il dit peut-être que c'est rien, comme a dit l'échographiste, peut-être que même s'il y a ces quelques petites anomalies, bon, ouais, c'est rien, la cardiopédiatre, elle saura. Mm. Et le lendemain matin, donc, j'ai appelé, j'ai pris le rendez-vous, au début, la secrétaire me dit « il n'y a pas de place ». Puis là, je lui lis le compte-rendu, et là, tout d'un coup, j'ai une place pour la semaine d'après. Donc, à la fois, je suis soulagée, parce que je me dis que « cool, on va enfin savoir ce qu'il y a ». À la fois, je me dis, pour que je passe de « il n'y a pas de place » à « rendez-vous dans une semaine », c'est que c'est quelque chose de grave.
Ouais.
Et donc, on y va. Alors, moi, entre-temps, j'ai été arrêtée. Parce que j'ai fini par craquer physiquement, en fait. Parce que j'aurais dû être arrêtée déjà depuis un moment. Et que là, on était en janvier.
Parce que là, t'étais à combien de mois de grossesse ?
Ça devait être le 7e mois, je crois. Mm. Si un jour, j'ai un deuxième enfant, je vais de nouveau être perdue dans les comptes. J'y comprends rien.
Comme beaucoup de mamans, de futures mamans.
Mais il y a un tableau, mais même en lisant le tableau, je le comprenais pas. Pourquoi une fois il y a 4 semaines, pourquoi une fois il y en a 5, on sait pas. Donc oui, ça c'était en janvier, et mon terme à la base c'était le 9 avril.
D'accord.
Alors, donc j'avais rendez-vous chez la cardiopédiatre le 10 janvier. C'est une date dont je me souviens bien, parce que c'est le jour de l'anniversaire de ma petite sœur en fait. Donc
d'accord.
Forcément... C'est une date dont je me rappellerai, quoi qu'il arrive, toute ma vie. Et en fait, il se trouve que ce jour-là, mon mari, il avait pas mal de boulot à Paris. Et nous, on habite en banlieue, et c'était dans une autre ville de banlieue, à une demi-heure de chez nous, que j'avais rendez-vous. Ce qui faisait que il fallait y aller en voiture, et donc, comme je disais déjà, moi, j'ai pas le permis. Alors, on s'était organisé pour que mes parents viennent me chercher... pour m'amener au rendez-vous, et lui nous rejoindrait après son boulot, aussitôt qu'il pouvait. Au final, il a fini un peu plus tôt, mais puisque mes parents étaient là, on y allait tous ensemble. Ça, c'est encore la magie de avant la pandémie, où on pouvait venir à quatre un cabinet médical. Et donc, on y va, y a de l'attente, on s'en doute, parce que c'est une cardiopédiatre, donc déjà... Les spécialistes, il y a toujours un peu d'attente. J'ai rendez-vous le soir, parce qu'à la base, je ne m'attendais pas à être en arrêt maladie du jour au lendemain. Donc, c'était en corrélation avec mes horaires du boulot. Le rendez-vous, début de soirée, quoi. Et puis, bon, on y va. Lui et moi, échographie. Pareil, la cardiopédiatre, comme ça, on ne voit pas mon geste, mais... Enfin, avec les deux mains, en appuyant comme une malade, bon, c'est un petit gabarit, mais parce que bébé n'aimait pas trop les échographies, donc il bougeait, il présentait son dos alors qu'on voulait voir son cœur, et on avait beau le pousser, essayer de le stimuler, c'était compliqué, donc moi j'étais allongée, j'attendais que ça passe. Et une fois qu'elle a fini l'échographie, bon bah là, on a eu le diagnostic, parce qu'effectivement, il avait une cardiopathie congénitale. Et a priori, je suis plutôt bonne enquêtrice parce que, bah, malheureusement, il avait ce que j'avais trouvé. Donc, elle nous a expliqué qu'il avait un RVPA total supracardiaque. Donc, ça veut dire RVPA, ça veut dire retour veineux pulmonaire anormal. En fait, en gros, les vaisseaux pulmonaires qu'on voyait pas au départ, ils étaient bien là, mais ils étaient pas reliés au cœur alors qu'ils étaient supposés l'être. Ensuite, total, c'est parce qu'il peut y avoir différentes versions, entre guillemets, du RVPA. Il peut y en avoir des partielles, parce qu'il y a 4 vaisseaux, donc il peut y avoir certains vaisseaux qui sont connectés et pas d'autres. Là, c'était les 4. Et supracardiaque, c'est la position, c'est-à-dire que c'était au-dessus du cœur.
D'accord.
Et en fait, le fameux vaisseau surnuméraire, c'était ce qu'on appelle un collecteur. En fait, son cœur avait fabriqué un vaisseau en plus pour amener quand même le sang depuis les poumons jusqu'au cœur, mais forcément, ça n'arrivait pas au bon endroit. Donc, tant qu'il était dans mon ventre, son cœur fonctionnait. Mais par contre, à la naissance, ça pourrait pas fonctionner comme ça avec le collecteur éternellement, quoi.
D'accord, ok.
Donc, elle nous a expliqué, elle nous a fait des schémas pour qu'on comprenne bien, etc. Et donc ensuite, vu qu'il y avait mes parents, elle nous a demandé si on voulait qu'elle leur explique aussi. On était les derniers, donc elle avait du temps. Donc moi, je me suis effondrée en larmes dans les bras de ma mère,
ouais.
Ce qui est plutôt normal.
Parce que là, la médecin vous dit
en fait,
que c'est dangereux.
En gros, ce qu'elle nous a expliqué, c'est que s'il n'est pas opéré à la naissance, bah, il va mourir, en fait, tout simplement.
Okay.
C'est que c'est une opération... Alors, c'est une malformation cardiaque qui est rare, mais qui s'opère bien. Donc ça, c'est le côté cool. Il avait aussi également une petite CIA. C'est une communication intra-auriculaire, mais ça, en fait... Il y a pas mal de bébés qui naissent avec, ça peut même se résorber tout seul, mais voilà, de toute façon, quitte à ouvrir.
Ouais.
On nous a même parlé éventuellement d'une IMG, si on se sentait pas la force, en fait, de subir tout ça. Ça nous a jamais traversé l'esprit, quoi qu'il arrive, nous, clairement, on allait jusqu'au bout du bout, et puis, il était dans mon ventre, mais on l'aimait, du coup, ce bébé. Et moi, il était hors de question. Voilà, on allait tout essayer, quoi qu'il arrive. J'ai refusé la myosynthèse, parce qu'on nous la propose d'office, mais c'est pas obligatoire. Parce qu'en fait, elle nous a expliqué que... surtout qu'en plus, au reste de l'échographie, il y avait... Enfin, morphologique, il y avait pas spécialement d'autres soucis détectés. Le RVPA, c'est plutôt quelque chose d'isolé et qui n'est pas forcément en lien avec une maladie génétique. Et moi, j'avais tellement peur, même si c'est un tout petit pourcentage de risque, du risque de fausse couche, que j'ai refusé totalement. Parce que de toute façon, ça ne changeait rien. Qu'on sache qu'il est une maladie ou pas, de toute façon, je menais ma grossesse à terme, on l'opérait, etc. Donc, je ne voulais pas prendre le risque.
Et alors, comment tu vis cette fin de grossesse avec toutes ces informations
C'était horrible. Je m'en suis rendu compte après, mais en fait, j'ai commencé une dépression à partir de ce moment-là, clairement.
Ah oui.
Surtout que comme j'étais en arrêt maladie, je restais enfermée chez moi. Parfois, je pleurais. Parfois, j'allais bien. J'ai mangé beaucoup de chocolat. C'est-à-dire que j'avais presque pas pris de poids. Et là, allongée, à pleurer, à manger... du chocolat, j'ai pris 18 kilos au total. Mais oui, sur le coup, je pensais que j'étais juste angoissée parce que là, j'allais devant l'inconnu total. On a eu deux rendez-vous à Necker parce que du coup, j'avais le choix en fait, soit entre Necker où du coup, j'accouche et on opère le bébé au même endroit, ou un autre hôpital. Où du coup, j'aurais été séparée carrément. La maternité et l'hôpital pour le service cardio n'étaient pas dans le même bâtiment, quoi. Mmh. Donc, c'était deux hôpitaux différents, bien qu'en face. Donc, moi, j'ai choisi Necker. Et effectivement, c'est bien pratique parce que on est vraiment dans le même...
Et on t'a proposé un suivi psychologique au moment où on t'a annoncé tout ça,
alors,
pour la suite de ta grossesse?
J'en ai pas le souvenir... Sachant qu'à ce moment-là, je voyais une psy, mais que j'ai arrêté de voir parce qu'elle-même a eu des soucis de santé, elle ne pouvait plus voir ses patients.
Ouais.
Donc je me suis retrouvée un peu toute seule, et clairement, j'avais pas la force de chercher quelqu'un d'autre ou quoi. Puis j'avais l'impression que ça allait, entre guillemets, et que le plus dur étant à venir, que bon, bah là, en gros, j'attends.
Ouais.
Et donc, à Necker, on nous a refait une T2 pour qu'ils aient leurs propres mesures, etc. Refait une écho cardio-fœtale qui a confirmé le diagnostic et qu'il n'y avait pas autre chose. Alors, j'ai été hospitalisée 2 jours, c'était une journée avec plein de rendez-vous, en gros. On a rencontré, du coup, le chef du service de cardiologie pédiatrique de Necker, qui est quelqu'un de très gentil, de très compréhensif, de très pédagogue. On a pu lui poser toutes nos questions, parce que j'avais des questions un peu bêtes, mais est-ce qu'après, il pourrait aller en crèche?
Oui.
Combien de temps il serait hospitalisé? Aussi, j'avais des questions par rapport à l'allaitement, parce que je voulais allaiter, mais je savais pas si c'était possible pour un bébé hospitalisé. Surtout que l'allaitement, c'est supposé être la chose la plus naturelle au monde. Moi, j'ai pas démarré mon allaitement de manière naturelle, du coup. Mais bon, bref, il m'a expliqué que c'était possible, qu'on prêterait un tire-lait, que la crèche, il fallait juste pas leur dire que l'enfant avait été opéré avant de s'inscrire, parce que on sait jamais, il pourrait prendre peur et refuser, alors que normalement, une fois opéré, son cœur est réparé pour une malformation comme ça.
Ah oui, ils t'ont dit ça carrément.
Il nous a dit, en gros, mentez quand vous remplissez votre dossier, quoi.
Bah, ça, c'est bon à savoir pour ceux à qui on dit pas ça.
Après, c'est une cardiopathie qui est bien spécifique, parce que ça demande des contrôles, mais ça demande pas une autre opération si tout s'est bien passé, ça demande pas de soins spécifiques, de traitement ou quoi, donc...
Oui, une fois que c'est réglé, quoi, en gros.
Voilà, c'est ça. Si tout se passe bien, normalement, c'est bon. Ensuite, on a eu un autre rendez-vous qui était en février. Donc, ils m'ont fait ma T3, comme à n'importe qui. À nouveau, une écho cardio-fœtale. Et puis surtout, on m'a donné la date du déclenchement. Parce qu'en fait, il fallait déclencher, parce que le collecteur, tant qu'il était dans mon ventre, ça allait. Mais le collecteur, en fait, pouvait se bloquer.
Au moment de l'accouchement ?
Même dans le ventre, ah oui, mais sauf que même... Enfin, si c'était bloqué dans le ventre, ça gênait pas, parce que oui. Tant qu'il était dans mon ventre, il respirait pas, donc c'était pas très très grave. Mais ça pouvait se bloquer à tout moment. Donc, il fallait déclencher pour qu'il y ait une équipe qui soit prête à l'opérer en urgence, au cas où. Et ensuite, en gros, selon si le collecteur a été bloqué ou pas... c'était maximum au un mois du bébé que l'opération aurait lieu.
Ah oui, d'accord, donc c'est pas forcément juste à la naissance, dès la naissance du bébé. On ça prend pas et on va pas l'opérer dans la foulée.
Ça dépend, ouais. Parce que ça aurait pu arriver.
Ça aurait pu être ça.
Mais aussi, on aurait pu avoir la possibilité de le ramener à la maison le premier mois.
Ah oui, d'accord.
J'ai eu ni l'un ni l'autre, hein, comme ça au moins c'est réglé. Et du coup, on m'avait expliqué aussi que quand il naîtrait, j'allais le voir une seconde et demie, qu'il faudrait que mon mari soit au taquet pour les photos, parce qu'après, on l'emmènerait pour se faire examiner, justement pour savoir si son cœur va bien ou pas. Ensuite, en gros, j'ai attendu. Il y a eu l'annonce du confinement. Moi, ça me changeait pas grand-chose vu que j'étais déjà enfermée chez moi. Ce qui m'angoissait plutôt, c'était qu'on commençait à entendre des histoires comme quoi les compagnons, on va dire la personne qui accompagne, parce que c'est pas forcément le mari ou quoi au caisse, était plus autorisée, ou alors autorisée juste au moment de la pousser, ou ceci, ou cela. Donc, il y avait ce stress qui montait parce que j'allais affronter une épreuve et j'avais pas envie de le faire toute seule.
Mais oui, bien sûr.
Surtout que, comme je disais, jusqu'à ce moment-là, mon mari, il avait toujours été là à chaque rendez-vous. Le mercredi soir, mon mari rentre après avoir promené le chien. Et il me dit, je me sens pas bien, je me sens fiévreux, j'ai la gorge qui gratte. Je vais dans mon sous-sol, ne t'approche pas de moi. Entre le côté logique pratique, où j'arrive presque plus à bouger, je ne sens plus trop debout sans avoir mal, etc., j'accouche la semaine prochaine, du coup, mon déclenchement était programmé au 24 mars. Et puis la peur du virus mortel qu'on connaît pas encore, voilà. Le ciel m'est tombé sur la tête. On a eu la chance qu'il ait un rendez-vous chez le médecin dès le lendemain. Mais à l'époque, on testait pas les gens, sauf les cas très très graves. Donc il a toujours été considéré comme suspecté Covid. Mais bon, vu les symptômes, sachant qu'on l'a eu tous les deux... du coup, il l'aura eu deux fois, mais qu'on l'a eu tous les deux l'année d'après, il l'avait vraiment, c'est juste qu'il n'a pas de test pour confirmer. Donc, j'ai fini ma grossesse avec mon mari dans son sous-sol, qui monte avec un masque, on désinfectait toutes les poignées, il fallait pas qu'il s'approche de moi. Et j'étais même plus capable d'enlever mes bas de contention ou même mon pantalon toute seule et je me faisais un marathon à chaque fois que j'enfilais une chaussette parce que j'avais plus personne pour m'aider.
Oh là là, la galère.
Et puis du coup, on a quand même appelé le lundi, à Necker pour savoir s'il pouvait venir ou pas. Et on nous a dit non, voilà, c'est mort quoi. Et donc. Quelque chose que j'ai appris après, c'est que... Enfin, moi, en gros, je me suis résignée à y aller toute seule. Parce que pas le choix. C'est que... Ils se bataillaient tous par texto. Ma famille, sa famille et lui. Pour que quelqu'un m'accompagne, en fait. Pour que je sois pas toute seule. Mais moi, je disais, non. Ma mère, elle va avoir 60 ans. C'est trop risqué. Mon père, désolé pour lui, mais ce sera pas le meilleur soutien moral s'il m'accompagne. Ma sœur, pourquoi pas, mais elle est asthmatique. Et puis bon, enfin, en gros...
Ouais, il y avait rien qui...
Mes beaux-parents s'étaient proposés, mais je me voyais pas coucher avec ma belle-mère à côté. Voilà. Il y a des niveaux d'intimité qu'on n'a pas encore. Et donc, au final, c'est ma mère qui m'a accompagnée. Et on a la chance, quelque part, en tout cas, j'aurais préféré que ce soit mon mari, mais Necker était une des dernières maternités qui a accepté un accompagnant, mais de A à Z, du moment qu'il sortait pas. Donc, du jour où je suis arrivée jusqu'à ce que je sois partie de la maternité, du moment qu'elle sortait pas, en fait, elle avait le droit de rester avec moi. Et donc, arrive le 24 mars au matin, j'avais rendez-vous à 9h. Ça fait très bizarre, c'est pas du tout comme ça que je m'imaginais mon accouchement, me pointer avec mes valises à 9h, coucou c'est moi, je viens pour accoucher.
Comment tu te prépares à ça? Parce que tu penses en plus à ce qui peut se passer potentiellement, ou tu fais abstraction, là, tu te dis je vais accoucher.
J'avais eu la chance d'avoir quand même quelques cours de préparation à l'accouchement avant qu'il les stoppe pour cause de Covid. Ce qui fait que, comme on m'avait expliqué à Necker qu'on me posera un ballonnet, j'ai demandé à voir à quoi ça ressemblait, etc. Enfin, j'ai essayé de me renseigner un petit peu sur le côté, on va dire, pratique de la chose, même si, quoi qu'il arrive, on sait qu'un accouchement ne se passera jamais comme on l'imagine. Donc moi, j'y allais très très angoissée. Quand on est parti le matin, enfin, en gros, je vais accoucher d'un bébé qui, dans ma tête, depuis le 10 janvier, va mourir quand il va sortir. Et je peux même pas dire au revoir à mon mari parce qu'il faut qu'on reste à distance. J'ai envie de lui faire un câlin et je peux même pas le toucher. Donc j'ai fondu en larmes dans la voiture à tel point que... Parce qu'on saigne souvent du nez quand on est enceinte. Le vaisseau qui saignotait pendant toute ma grossesse a explosé. Je me suis mise à pisser le sang dans la voiture parce que j'ai éclaté en sanglots trop fort, en fait. J'ai eu le temps de me calmer, parce que j'habite dans le 91, donc le trajet, même s'il n'y avait pas une voiture pour cause de confinement, voilà, puis vraiment je suis arrivée. Ma mère ramenait certaines affaires, elle était partie se garer, je vais dans une salle d'examen, on m'examine. Ma mère arrive, et là, elle vient avec moi dans la salle où on doit me poser le ballonnet. Alors, il faut savoir que j'en étais à un stade où j'avais tellement mal qu'un toucher vaginal pour l'examen du col, c'était pas possible. Ah oui. Ma sage-femme, si elle m'en faisait un, ne mettait qu'un doigt alors que normalement c'est deux parce que j'avais trop mal. Donc là, impossible d'insérer le spéculum pour pouvoir mettre le ballonnet. Mais à un point, enfin, j'ai hurlé, je pense que tout le couloir m'a entendu.
Ah oui, à ce moment-là, d'accord.
Et heureusement, la sage-femme qui me l'a posé connaissait des exercices de sophrologie. Au départ, elle me dit voilà, de me détendre, de penser à quelque chose d'agréable. Elle me dit « Votre conjoint ». Alors là, je refonds en larmes.
Oui, c'est vraiment pas la...
Elle dit « Oui, je sentais que c'était pas une bonne idée ». Non, effectivement, bon, je me suis concentrée sur ma respiration. J'ai pensé à une plage de sable blanc, à mon petit chien, à des choses cool. Et ça a fini par marcher. J'ai pas envie de faire paniquer les personnes à qui on a posé un ballonnet, mais moi, franchement, c'était hyper désagréable. En plus, j'ai saigné parce que... Bon, c'est normal de saigner, mais en fait, j'ai des petits bouchons qu'il y a au bout des tuyaux qui a lâché, donc j'en avais partout. Et techniquement, au bout de 24 heures max, c'est un déclenchement mécanique, c'est supposé faire travailler le col. Le col s'est ouvert à au moins 2, et le ballonnet retombe tout seul. Mais moi, je voulais pas accoucher, pour des raisons évidentes. Donc, il s'est rien passé.
Oui.
Bah, en fait, le col, il était ouvert à un demi-doigt plus de 24 heures après, quand je suis allée en salle de naissance pour qu'on me pose la perf.
Ah oui, d'accord.
Donc, j'ai subi tout, parce que j'ai quand même eu des contractions, on va dire des fortes douleurs de règles. Parce que j'ai une grosse tolérance à la douleur due à des règles hyper douloureuses depuis toujours. Donc, mais je pense que des nanas pas habituées, ça leur aurait vraiment pas plu. J'ai pas trop dormi quand même la nuit.
Parce que là, malgré la cardiopathie du bébé, on te fait pas forcément une césarienne.
Bah non, il est né par voie basse.
D'accord.
Et pour le coup, parce qu'on a revu notre cardiopédiatre avant que j'aille à Necker, elle a dit, pour une cardiopathie comme ça, j'aurais même laissé les choses se faire naturellement.
Ah oui.
Mais bon, le protocole à Necker, c'est de déclencher, donc j'avais mon rendez-vous, j'y suis allée. Et ça a été super long, parce que du coup, donc, le matin, vers 11h, on m'a posé le ballonnet. Vers 16h, le lendemain, on m'a posé la perfusion d'ocytocine. Et mon fils, il est né le surlendemain. Il est né le 26 mars. La perfusion de cytocine, on m'avait dit que les contractions sont horribles, que c'est pire que tout. Moi, ça allait. Franchement, c'était pas... J'ai discuté avec ma mère. J'étais quand même contente d'avoir la péridurale parce que au moment où je commençais à me dire « Ah là, c'est moins sympa », l'anesthésiste est arrivé, donc... Jusque-là, en fait, hormis le fait que le ballonnet ait servi à rien, l'accouchement se passait plutôt bien. C'était juste super long. Et puis, moi, j'étais morte d'angoisse parce que j'avais toujours ça dans ma tête. Mon bébé, en fait, il est vivant. Il sera vivant que dans mon ventre. Et dès qu'il naîtra, en fait, il mourra.
Et là, t'y pensais pendant l'accouchement ?
Un peu. En fait... T'es un peu dans le feu de l'action, donc c'était, on va dire que c'était plutôt une pensée sourde que quelque chose auquel je pensais vraiment en continu comme ça.
Ouais.
Parce que j'avais des choses plus pratiques à penser, et puis il y a des moments rigolos comme quand... En fait, jusqu'à ce qu'on me demande de pousser, c'était rigolo mon accouchement. Enfin, je me rappelle, on m'a percé la poche des os, mais comme j'avais déjà la péridurale, je sentais juste une espèce de vague de chaleur quand ça se vidait à chaque contraction. Parce que la péridurale était vraiment géniale. Je dois être une des rares personnes à pas m'en plaindre. C'était exactement comme je voulais. J'avais pas mal, je sentais tout. Je pouvais bouger mes jambes si je voulais. Et c'était moi qui la dosais. Et justement, j'ai commis l'erreur, en fait... Donc on m'avait dit, dans une heure, quand on reviendra, il faudra pousser. Ça a duré un peu plus longtemps qu'une heure l'attente. Et en plus, il y a eu des petites complications. Au monitoring, le petit cœur du bébé commençait à fatiguer et à plus trop supporter les contractions. Sachant que c'est un cœur qui est déjà problématique, on m'a dit, en gros, si ça refait ça une fois, ce sera césarienne d'urgence. On m'a placé une sonde... urinaire, comme ça s'était fait pour la césarienne d'urgence, qui n'a donc jamais eu lieu. Et donc, au final, j'ai commencé à pousser, et il devait être 1h20, un truc comme ça. Enfin, en gros, il était trop descendu, la césarienne, c'était plus possible, quoi qu'il arrive, il allait falloir que je pousse.
Ah oui, d'accord.
Et sauf que j'ai vraiment, mais vraiment du mal. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai commis l'erreur d'envoyer une petite dose un peu avant qu'ils arrivent pour que je pousse, et que du coup, ça m'a un peu empêché de pousser,
oui.
Ou quoi, je sais pas... Quoi qu'il en soit, il est sorti. Ils l'ont sorti à la ventouse.
Ah oui, d'accord.
C'est qu'au départ, c'était... il n'y avait pas grand monde. La sage-femme, je ne me souviens pas très bien, surtout que je fermais les yeux parce qu'il y a quand même une lumière, etc. Et j'essaie de me mettre dans ma bulle. Le rôle de ma mère, c'était juste de me tenir la nuque parce que je me redressais un peu quand je poussais. Et je fermais les yeux. Et je poussais quand il fallait pousser. Et je la tenais, en fait. Elle avait mis un drap autour d'elle et je devais tirer sur le drap quand je poussais. Et donc, à chaque fois que je sentais qu'il fallait pousser, je la tirais et je poussais en même temps. Et sauf que... Pourtant, il n'avait pas une très grosse tête, mais ça passait pas, donc il a fallu une ventouse. Et là, malgré la péridurale, le fameux cercle de feu, je l'ai senti. Ah, c'est le seul moment, d'ailleurs, où j'ai eu mal. J'ai dit quelque chose comme « J'ai mal !» Et après, plop, il est sorti. Donc effectivement, on me l'a posé sur moi 2 secondes et demie, ma mère était au taquet, j'étais en mode « photo !» Donc elle a réussi à prendre 3 photos. Et puis bon, après, je m'inquiète, mais sans plus, dans le sens où...
Là, tu l'as entendu pleurer...
Bah non.
Non.
Mais en fait, je sais pas comment ça doit être un bébé quand ça sort.
Ah oui.
Surtout qu'il est resté 2 secondes sur moi, donc j'ai même pas eu le temps de me rendre compte qu'il était tout bleu et tout flasque. Et comme on devait me l'enlever de toute manière... Bah moi, je suis pas plus inquiète que ça, dans le sens où je me dis, de toute façon, on m'avait prévenu, j'attends. Je commence à attendre un peu longtemps. Et en fait, il y a une sage-femme qui vient me voir et qui m'explique qu'en fait, il respirait pas quand il est né et que en fait, là, il est en réa néonate parce qu'ils ont dû l'intuber. mais qui va bien, que son cœur va bien, donc il va pas être opéré tout de suite.
D'accord.
Donc c'est un mix bonne nouvelle, ouais. Mauvaise nouvelle, bon voilà. Bon, je pense que je suis tellement fatiguée à ce moment-là, parce qu'il est né le 26 mars à 2h09. Moi, je suis là depuis 9h du mat le 24, donc...
Ouais, t'as plus les yeux en face des trous, quoi.
C'est ça, en plus j'ai fait une chute de tension, j'étais à 6, on m'a fait une perfusion de je ne sais plus quel médicament, donc moi j'étais dans les vapes totales, je comprenais pas très bien ce qui se passait en fait. Et j'ai attendu très très longtemps. Je pense que c'est parce qu'il fallait attendre que je sois requinquée pour que je puisse regagner ma chambre. Parce que du coup, j'avais une chambre, moi, depuis le 24 mars, vu que...
Oui, t'es restée à l'hôpital.
Voilà, c'est ça. Mmh. En fait, on peut rentrer chez soi, mais sauf que... Vu que j'habite à une heure de Necker en voiture en plus, ils trouvaient que c'était mieux que j'ai une chambre directement. Ce qui est assez logique. Et donc, il est né à 2h09, et quand je vois mes premières photos de lui, c'était à 7h, donc c'est quand même passé 5h, entre le moment où il est né et le moment où j'ai pu le voir pour la première fois.
Ah oui, d'accord.
Et encore, c'est parce que cette sage-femme-là était sympa, et que quand elle m'a prise sur mon fauteuil pour me ramener à ma chambre, elle a dit « bon, on va faire un petit détour », parce que du coup, c'est... Moi, j'étais au 4e étage et lui au 5e étage, et je suis allée le voir, moi, j'étais pas encore capable de me lever, hein, mais... Je l'ai pris en photo, je pouvais pas le toucher, etc. Il était intubé encore à ce moment-là. Je me rappelle pas de tout parce que j'étais vraiment... J'étais KO, mais je pense que c'est normal. Et c'était compliqué d'avoir des nouvelles tout au long de l'hospitalisation. Hein. C'était... déjà, pour moi, c'est... Je reviens dans 5 minutes et je revois plus jamais la sage-femme qui m'a dit qu'elle revenait dans 5 minutes. Pour lui, attendez, je reviens avec des nouvelles, on vient 2 heures après, enfin, c'est un peu compliqué.
Toi, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là ?
En fait, c'est hyper compliqué parce que j'essaie aussi de me faire le relais auprès de mon mari qui est tout seul à la maison.
Et oui, c'est vrai que...
J'essaie un peu de lui raconter ce qui s'est passé, surtout que j'ai essayé de lui téléphoner au moment de l'accouchement, mais... De l'entendre à côté, essayer de me réconforter, mais il est pas là, etc. En fait, j'ai dit à ma mère de raccrocher, enfin bref, c'était compliqué. De réussir à lui communiquer les choses, en même temps j'essayais de me reposer, de toute façon je pouvais rien faire de plus. Puis je l'ai pas trop revu. Après, bonne nouvelle, il a Jules, parce que du coup j'ai même pas dit son prénom encore, mais c'est Jules. Il a enlevé son respirateur tout seul. Donc... Il a eu un petit peu d'aide encore, mais quand je suis allée le revoir le lendemain, il avait juste des petites lunettes, le petit tuyau, là. On m'a dit, même parce qu'il pleurait un peu, on m'a dit qu'il n'a même pas perdu sa voix, alors qu'il devrait avoir la voix éraillée. Il était tout rose et tout dodu. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu sa cardiopathie congénitale. On aurait dit un bébé normal, surtout qu'il avait encore le torse sans aucune marque. Mais j'ai la psy, par contre, de la maternité qui est venue me voir ce jour-là. Et clairement, moi, enfin voilà, mon fils était né la veille, et je lui ai dit... Ça pourrait être un bébé random, ça me ferait pareil.
Ouais.
Parce que, voilà, en fait, on l'a sorti, on l'a enlevé, je vais voir un bébé dans une couveuse. Justement, comme il a une malformation cardiaque assez rare, je sais qu'on l'a pas échangé avec un autre et que c'est le mien, mais enfin, j'avais pas de ressenti particulier. Le vendredi, j'ai aussi eu rendez-vous avec l'anesthésiste. Parce que en fait, ils se sont dit qu'ils allaient l'opérer samedi après-midi ou peut-être lundi. Et donc, l'anesthésiste m'explique comment ça va se passer.
Mais on te dit à ce moment-là qu'il est hors de danger que...
Pour le côté respiratoire, etc., ça, c'était fini. On m'a dit que ça arrivait à plein de bébés, ça n'avait aucun rapport avec sa cardiopathie. Mais par contre, ils ont décidé d'opérer son cœur plutôt que ce que j'imaginais. Mais quand je vois l'anesthésiste, elle m'explique un peu tout, mais encore une fois, même s'ils essaient de simplifier les termes médicaux, etc., on comprend pas très bien. Moi, je viens d'accoucher, je suis fatiguée. J'ai décidé d'allaiter, donc moi, je dois faire sonner mon réveil pour stimuler ma montée de lait avec un tire-lait. J'y arrive pas la nuit parce que je suis encore trop fatiguée, donc je coupe mon réveil et je me dis tant pis. Donc j'ai pas spécialement les yeux en face des trous quand elle m'explique tout. Ce que je sais, c'est que qu'il y a un risque en fait que quand j'aille le voir après son opération, il ait le thorax ouvert et qu'il ait une plaque. C'est le seul truc que j'ai vraiment retenu de tout ce qu'on m'a dit qu'on lui ferait. Parce que, alors je sais plus s'il y a une histoire où on baisse la température ou la machine qui fait tourner le sang. C'est complètement nébuleux, ça je me rappelle pas. Mais par contre, un truc qui m'a frappée, c'est que peut-être que la prochaine fois que je vois mon fils, il aura le thorax ouvert et une plaque. Ok, bon, vous verrez le chirurgien demain matin. Et le samedi matin, une sage-femme me réveille. On peut dire en trombe, alors il devait être 8h, mais bon, j'ai un peu le contre-coup de tout ce que j'ai vécu, donc je dors en fait. Et il faut monter les papiers en néonat. Pourquoi ? Quel papier ? Bonjour. En fait, il va se faire opérer, là. Donc, il faut les papiers. J'avais des papiers de consentement à remplir que j'avais dû envoyer. En plus, on avait dû faire un micmac de mail vu que mon mari n'était pas là pour que lui, il signe aussi ses consentements. Et moi, en plus, je les avais pas remplis comme je pensais qu'il serait opéré que le samedi après-midi, que je verrais le chirurgien, etc. Donc, là, c'était la panique. Total, je me suis mise à pleurer, j'essayais de m'habiller, de me coiffer en même temps parce qu'il fallait que je monte les papiers et que je le vois avant qu'il soit opéré, de trouver un stylo, ma mère m'en passe un, mais j'y arrive pas, et qu'est-ce que je dois écrire, et je pleure, j'appelle mon mari, ce con il répond pas, je sais pas si on peut garder ça au montage ou pas, mais évidemment il est sous la douche à ce moment-là alors qu'il faut qu'il ait son téléphone à côté de lui, quoi. Et donc le temps que je monte au 5e étage... Je lui explique en larmes, il comprend rien, que là, voilà, on va l'opérer. Et on peut dire que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'aimais mon fils.
Ouais.
C'est au moment où, en fait, là, ça y est, il va mourir, quoi. Et j'ai eu vachement de chance parce que malgré le Covid, malgré le fait qu'à ce moment-là, j'avais pas de masque, parce que, bon, ils pouvaient pas trop en donner, donc parfois, ils en donnaient. Là, j'en avais pas, je suis montée d'un coup avec les papiers. J'ai eu le droit de le prendre dans mes bras. Il a cherché le sein direct, il avait... l'instinct tout de suite même si là c'était pas possible et voilà j'ai pu l'accompagner jusqu'à l'entrée du bloc
parce qu'il a cherché le sein mais tu pouvais pas l'allaiter.
Bah non, moi j'étais en blouse
Ah oui, d'accord.
En fait il allait partir se faire opérer donc de toute façon il devait être à jeun.
Ah oui.
Mais il avait quand même les bons réflexes, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas téter mais il a tenté, quoi. Et j'essayais de le rassurer, mais en fait, je lui disais les mêmes choses, parce que quand il était dans mon ventre, je lui parlais beaucoup. Parce que je pleurais beaucoup, mais je lui expliquais que c'était parce que j'étais inquiète pour lui, qu'on allait faire tout ce qu'on pouvait pour le soigner, qu'il était costaud, etc. Donc j'essaie un peu de lui répéter que voilà, là, on va lui réparer son cœur, à tout à l'heure, etc. Et donc, on m'avait dit à la base que c'était une opération qui durait 6 heures. Donc moi, j'attends. Bah, c'est ça, c'est que j'attends, je suis avec ma mère dans ma chambre et à part manger, discuter et tirer mon lit toutes les 3 heures, j'ai rien d'autre à faire, donc j'attends.
T'es dans quel état là, un stress maximal ?
En fait, étrangement, comme j'attends, c'est un peu l'émotion neutre. Parce que de toute façon... Alors, j'arrive pas à savoir si c'est que j'étais tellement pleine de stress que du coup, j'avais l'impression de plus rien ressentir, ou si c'était juste la fatigue ou quoi. Et je finis quand même par demander des nouvelles, parce que je trouve que ça fait longtemps. Là, il est 16h, 16h30, 17h, je sais plus trop. Là, il aurait dû sortir du bloc depuis un moment, il aurait dû me donner des nouvelles. Et il y a une sage-femme, donc je demande, etc. Elle va se renseigner. Ah, mais en fait, il est sorti depuis 13h30. Personne s'est dit que ce serait bien de me prévenir.
Mais non.
Non, vraiment, j'ai quelques griefs. Heureusement que je me souviens des noms de personnes parce que j'étais trop dans les vapes. Parce que autant il y a eu des gens très cool, autant il y a eu des gens. Voilà.
3 heures après, on t'a toujours rien dit, quoi.
Bah, en fait, je me demande si j'avais pas demandé à quel moment on se disait ce serait bien de la prévenir que son fils est sorti du bloc, quoi.
Incroyable.
Et donc, je suis allée le voir. Alors, par contre, ce qui est hyper pratique, et là, ça m'a confortée dans mon choix d'avoir. Accoucher à Necker, c'est qu'en fait, la maternité et le service cardio sont au même étage. Donc pour aller le voir, j'avais qu'un couloir à traverser. Et je m'attendais à ce que ce soit impressionnant. Il avait un drap sur lui, parce que moi, j'avais encore en tête l'histoire du thorax ouvert et de la plaque. Il y avait plein de machines autour de lui qui bipaient. Il avait un respirateur. Il dormait parce qu'il était sédaté. Et il y avait son infirmier, du coup, trop cool, qui m'a tout expliqué, chaque machine, à quoi elle correspond, à quoi elle sert, etc. Il s'appelait Julien. C'était très drôle parce que tous ses premiers infirmiers et infirmières en réa de cardiologie, ils s'appelaient Julien, Julie, Julia, enfin que des noms qui ressemblent à Jules, donc c'était très rigolo. Et en fait, il me dit, vous voulez voir le pansement ? J'étais en mode, le pansement, c'est-à-dire, je sais pas trop. Il fait, oui, il y a eu un petit pansement, quoi. Et il soulève le drap, et en fait, il avait été refermé, donc trop bien. Donc, je m'attendais à quelque chose d'hyper impressionnant, et en fait, au final, il avait un rectangle blanc collé sur lui, un pansement, quoi. Et je pense, comme énormément de parents qui ont un enfant opéré, moi, je voyais pas tous les fils, tous les capteurs, les drains, les machins, je les voyais pas, je voyais juste mon petit bébé. Et j'essayais de le filmer un max, de prendre des photos pour envoyer à mon mari, du coup. Et en fait, le truc, c'est que là, c'était fait. Donc, et ça avait l'air d'aller.
Parce que là, les médecins te disent quoi ? Qu'il est hors de...
En fait, on m'a rien dit. On m'a jamais rien dit. Le chirurgien, je l'ai jamais rencontré. Il a passé sa tête vaguement par la porte de la chambre. Il a dit bonjour. C'est son assistante qui m'a expliqué que ça s'était bien passé. Je lui ai posé des questions par rapport au Covid aussi, parce que du coup, vu qu'un bébé qui est opéré, c'est hyper fragile, est-ce que ça craignait quelque chose ? Est-ce qu'il risquait de l'attraper ou quoi ? À l'époque, on disait que les enfants ne l'attrapaient pas. Et donc, elle m'a bien rassurée, en tout cas. Le seul stress que j'avais encore, c'est qu'il y a un problème qui surgisse dans ses os, une maladie nosocomiale ou que sais-je, mais sinon, lui, il allait bien. Le seul problème, c'est qu'au moment où je suis allée le voir après son opération, il commençait à déménager tous les petits patients du service dans d'autres chambres parce qu'ils allaient installer leur unité Covid. Donc c'était le branle-bas de combat. Et moi, je retombais à peine en pression qu'il y avait ça. Je me suis dit, mon Dieu, il va y avoir des gamins qui ont le Covid à côté de mon bébé qui est fragile et il va l'attraper et il va mourir. J'arrivais pas à m'ôter de l'esprit qu'en fait, on n'allait pas ressortir ensemble de Necker, hein, très clairement. Et le dimanche, donc je suis retournée le voir parce qu'en fait, moi, j'étais très fatiguée. Donc j'essayais de rester le plus longtemps possible avec lui, mais... Assise sur une chaise pour tirer mon lit, ça allait, mais j'ai eu deux déchirures, donc je pouvais pas rester trop assise, mais j'avais super mal au dos, donc je pouvais pas trop rester debout. C'est un truc que j'ai beaucoup culpabilisé, de pas être restée beaucoup avec lui quand je pouvais, mais en même temps, physiquement, j'étais pas capable.
Ouais, donc, peut-être un accouchement, hein, c'est pas rien.
Et il y avait que les parents qui avaient le droit de visite, mais il y avait que moi, du coup, qui pouvait venir comme son père avait le Covid, et dans un monde idéal, moi, je me serais reposée pendant qu'il passait la journée avec son père.
Ouais.
Et du coup, la psy de la maternité m'avait dit qu'elle voulait pas que je sorte avant le lundi. Donc, après les 3 jours. Elle voulait que je reste un peu plus longtemps. Elle m'avait dit qu'elle leur dirait de pas me faire sortir, parce que c'était le dimanche, du coup. Elle m'avait dit, je suis pas là le week-end, mais je vous dis à lundi. Sauf que moi, le dimanche, je vais bien. C'est-à-dire que les coutures au niveau des deux déchirures, ça va bien, l'utérus s'est remis en place, j'ai pas de saignement suspect, enfin en gros, physiquement, je suis apte à rentrer chez moi, alors que psychologiquement, pas du tout. C'est que j'ai l'air d'aller bien, mais en fait, non, vraiment pas. Et sauf que j'ai dû partir, et avant de partir, je fais mes valises, etc. Je passe tout à ma mère. Et je vais en réa voir Jules. Et là, on m'explique que, à cause du Covid, à partir d'aujourd'hui, les visites, c'est un par an, 1 heure. Alors, l'infirmière était vraiment super cool, parce que je suis restée beaucoup plus qu'une heure. Je crois que je suis restée au moins 2 heures, si pas plus. J'ai tiré mon lait, j'ai pris des vidéos, des photos, je lui parlais, je lui touchais ses petites mains, etc. Sachant que moi, j'avais refusé une place à la maison des parents, qui, je crois, de toute manière, était fermée à ce moment-là pendant le confinement, mais à l'époque, on ne pouvait pas savoir. Parce que, habitant en banlieue, je préférais en plus être dans le cocon de ma maison plutôt que d'être dans un endroit que je connais pas, avec des gens que je connais pas. Et je préférais me taper les transports le matin et le soir et aller rendre visite à mon bébé comme ça. Au final, là, ça aurait fait beaucoup de trajets pour une heure par jour. Pas vraiment avec mon mari, puisque...
Ouais, il était toujours confiné, voilà. Isolé. Et on te dit combien de temps ton bébé doit rester à l'hôpital ?
Bah en fait, on me dit pas dans le sens où tout va bien, mais ce qu'on m'avait expliqué, enfin ce qu'on nous avait expliqué avant l'opération, quand on avait rencontré donc, le professeur Bonnet qui est le chef de service, il nous avait expliqué que si c'était en urgence dès la naissance, il resterait au moins une dizaine de jours en réa et qu'il serait à l'hôpital en tout un mois à peu près. Et par contre, que si c'était les fameux un mois plus tard, l'opération, là on était plus sur du 3, 4, 5 jours max en réa. 10 jours en tout à l'hôpital. Donc là, je m'attendais à ce que ce soit ça. Je m'attendais à ce qu'il reste encore un peu en réa, et puis qu'ensuite, il reste une dizaine de jours. Et puis, en fait, j'ai appelé le lundi pour prendre des nouvelles, parce que du coup, vu que... Enfin, je comptais y aller en fin d'après-midi, puisque j'y vais qu'une heure, autant me reposer, tirer mon lait, etc. Et en fait, quand j'appelle, on me dit qu'il est déjà parti, qu'il est dans sa chambre en cardio et que je peux le rejoindre si je veux. Donc je l'ai rejoint. Et par contre, là, tu vois que c'est plus toi le patient du tout et que c'est l'enfant. Parce que moi, je viens d'accoucher quand même. Hein. C'était il y a moins d'une semaine. Et le lit des parents qui accompagnent les enfants hospitalisés, c'est un fauteuil qui se replie et qui se déplie en lit de camp, quoi.
Ouais, c'est pas super confort.
C'est pas super confort quand t'es dans mon état physique.
C'est clair.
Il y a pas forcément beaucoup d'empathie pour moi. Il y a toujours des gens gentils. Hein. Je veux pas faire de quelques cas une généralité, mais du coup, enfin, malheureusement, j'ai retenu plus les trucs pas cool que les gentils gestes, on va dire. Et puis au début, en fait, il a encore ses redons, ses drains et un petit pacemaker externe. Donc moi, je peux pas le prendre dans mes bras. Donc quand il hurle, à part aller à côté de lui et essayer de lui donner une tétine et de lui parler, je peux rien faire.
Ouais, hyper frustrant.
On m'a appris à lui donner le dalle au doigt. Donc avec une petite seringue où il y a un petit tuyau, on passe le tuyau contre le doigt et le bébé, il tète le doigt et en fait... S'il tète bien, la seringue, on n'a même pas besoin de pousser et il aspire tout le lait tout seul. Mais ça, ça me pétait le dos parce que j'étais penchée au-dessus du berceau, que je viens d'accoucher et que j'ai très mal au dos, etc. Mais bon, je l'ai fait. Enfin, on lui a enlevé ses redons, sauf que du coup, il devait être à jeun 5 heures avant. Et il hurlait parce qu'il avait faim et je pouvais pas le porter, je pouvais pas lui donner à manger. J'essayais de l'expliquer, mais son bébé de quelques jours, il comprend pas que je l'empêche de manger pour son bien. Du coup, alors j'en ai profité pour prendre une douche. J'avais pas regardé quand on lui enlevait, et puis j'avais pas très envie de voir ça. Et vu qu'il hurlait à la mort dès que j'allais aux toilettes ou quoi au caisse, je me suis dit au moins il sera avec quelqu'un.
Ouais,
et donc je vais prendre ma douche. Parce qu'en plus, pareil, on n'avait pas le droit d'amener de nourriture dans les chambres. Il y a une salle pour les parents, en fait, avec frigo, micro-ondes, etc. Donc je devais le laisser, en fait, pour aller manger. Et dans le chaos psychologique dans lequel j'étais, j'osais même pas prévenir une infirmière pour dire je vais le laisser, je vais manger. Donc je m'engloutissais mon truc rapidos et je retournais... Après, ce qui était vraiment génial, c'est quand j'ai pu le mettre au sein. Enfin, alléluia, j'ai pu le prendre dans mes bras. Pour moi, c'est... Du coup, je l'avais déjà eu deux fois dans mes bras, mais pour moi, c'est la vraie fois où je l'ai eu dans mes bras. Parce que j'ai eu dans mes bras longtemps et il a tété. Enfin, quoi.
Ouais.
Parce qu'il avait 5 jours déjà. Donc ça, c'était trop cool. Par contre, j'arrivais pas à me mettre dans la bonne position si le fauteuil était déplié en lit. Donc toute la nuit, chaque fois qu'il voulait téter, parce que je le reposais dans son berceau, et il pleurait. Alors je repliais le fauteuil alors que je venais de m'allonger et je le remettais au sein. Et je redépliais le truc et paf, il repleurait parce que j'avais trop mal au dos si je m'asseyais sur le rebord du lit de camp en fait. Et sauf qu'il y a une infirmière qui me dit le cododo, c'est pas conseillé. Donc je continue mon truc de fauteuil. Et la nuit d'après, il y a une autre infirmière qui me voit galérer encore avec mon fauteuil et pas dormir. Enfin, il y a un moment, en fait, j'ai eu un blackout complet, je me suis endormie. Je me suis écroulée de fatigue alors qu'il hurlait pendant 3 heures, j'ai dormi. Je sais qu'à un moment, elles sont venues parce qu'il a eu 2-3 petits moments où il a désaturé, où il a fallu lui remettre les lunettes pour respirer. Mais moi, là, j'étais en blackout complet. Et mon corps, il a lâché, là. Par contre, là, la deuxième nuit, l'autre infirmière m'a dit « Prenez-le avec vous, je vous promets, vous allez pas l'écraser. » Je me suis calée un peu assise, on va dire, dans mon lit, avec le coussin d'allaitement qu'il m'avait prêté, parce que j'ai pas pris le mien. Je pensais partir que pour 2-3 jours et reprendre des affaires ensuite. Ouais, je l'ai pas écrasé. Et en fait, jusqu'à ses 7 mois et demi, il a dormi avec moi.
Ouais. Parce que là, à ce moment-là, ton mari, il en est où, lui, de son Covid ?
Ah bah lui, il est toujours considéré... En fait, à l'époque, on m'a expliqué que si pendant 5 jours, il n'a plus de symptômes, c'est bon, il est plus considéré comme contagieux. Mais, donc au moment où je rentrais de la maternité... Là, il me dit, parce qu'en fait, ça faisait donc 5 jours qu'il n'avait plus de symptômes, mais là, il me dit, par contre, je suis de nouveau malade. Ce qui fait qu'en fait, moi, quand je suis rentrée, on s'est vus de loin, il est resté dans son sous-sol et moi, dans le reste de la maison.
Ah, mais non.
Et donc, en fait, il était toujours considéré comme contagieux quand moi, je suis partie à l'hôpital rejoindre Jules, ce qui fait qu'il n'avait même pas le droit de nous rendre visite. Donc, c'est une maternité que j'ai démarrée seule, en fait. Et pendant très longtemps, en fait, ça a été un peu Jules et moi contre le monde entier, et même contre mon mari, en fait, parce que tout le monde était notre ennemi, parce qu'on était tous les deux dans la galère à Necker depuis le départ.
Ouais.
Jules et moi, et personne d'autre. Et par contre, contrairement au délai le plus court qu'on nous avait donné, 5 jours post-op, on pouvait partir. Il avait des échos de contrôle tous les jours, et puis le jeudi, donc une semaine après sa naissance, 5 jours après son opération, et là c'est en plus le chef de service qui est venu, il m'a dit, en gros, au niveau du cœur, etc., Jules, il peut sortir, il peut rentrer à la maison. Par contre, si vous voulez rester un peu plus, si vous avez besoin de prendre plus de temps, déjà, vous n'êtes pas obligé de partir ce matin. Vous pouvez partir cet après-midi. Si vous voulez partir demain, vous pouvez partir demain. Je pense qu'il avait un peu saisi ma personnalité très angoissée.
Ouais.
Mais en fait, j'avais tellement envie de rentrer chez moi avec mon bébé que j'ai expédié le truc. Et en début d'après-midi, on est parti. Même si, au final, j'étais encore seule chez moi parce que mon mari ne pouvait pas s'approcher de nous. Ouais. Mais...
Est-ce que là, à ce moment-là, t'avais réalisé que ton bébé était bien en vie et qu'il risquait plus rien ?
Pas du tout, il m'a fallu des mois et des mois. Ah oui. Mais en fait, très honnêtement, ça fait pas si longtemps que ça que je me dis que c'est ok. Parce qu'il y a eu plusieurs autres facteurs de stress. Je savais qu'un prélèvement avait été effectué pour faire un cariotype. Et donc en fait... J'ai été angoissée jusqu'au jour où on a eu les résultats du cariotype. Parce que même si, à chaque fois que Jules avait un contrôle chez la cardiopédiatre, ça se passait super bien, le cœur au top, les chirurgiens, ils font un super boulot. Qu'est-ce qu'elle a dit à mon mari ? Parce que du coup, les premières fois, c'est moi qui l'ai amené, surtout que c'était hebdomadaire, les contrôles, et que mon mari était encore considéré comme contagieux. Mais après, du coup, pour me reposer un peu... Je les laissais partir tous les deux, vu que de toute façon, mon mari est obligé de nous amener comme c'est lui qui conduit.
Ah oui.
Autant que moi je dorme et que... Et le lendemain, notre chaudière est tombée en panne. On n'était pas trop censé faire ça, mais je suis partie me confiner chez mes parents parce que j'allais pas rester avec un bébé de une semaine dans un endroit qui n'a pas d'eau chaude et pas de chauffage.
Ah oui, c'est sûr.
Et ça change la donne du coup parce que il y avait quelqu'un pour s'occuper du bébé. Si je dis que j'ai envie de me laver, quelqu'un peut le tenir dans ses bras, etc.
Mmh.
On me faisait à manger. Seule chez moi, en vrai, je sais même pas comment j'aurais fait.
Mmh.
Et par contre, mon mari a pu nous rejoindre. En fait, à la seconde où le docteur a dit qu'il était plus contagieux, parce que moi, je devais faire la visite des 15 jours de Jules, et je lui ai demandé, et le médecin, parce qu'il lui avait fait faire une prise de sang, Le médecin a dit non, c'est bon, il peut vous rejoindre. Et, bah, il a pris la voiture et puis il nous a rejoints. Et là, il nous a plus lâchés, par contre.
Enfin réunis.
Et du coup, bah, pour lui, ça a été compliqué. Pour moi, il m'a fallu 2 jours pour comprendre que cette petite chose-là, c'était le même Jules que dans mon ventre, pour avoir un attachement pour lui, etc. Pour mon mari, c'était encore plus compliqué parce que il a pas vu naître, que pendant 2 semaines, il a juste pas vu, en fait. Bon, après, au final, bah, comme on dit, tout est bien qui finit bien. Là, il a 20 mois et il va très bien, mais c'est vrai que... Et puis, encore une fois, moi, psychologiquement, je m'étais pas rendu compte que j'étais déjà en dépression depuis janvier 2020. Donc moi, je pensais, est-ce que j'ai pris un petit congé parental après mon congé maternité, et je reprenais en septembre, moi, je me suis dit, c'est juste parce que j'ai besoin de voir des gens, de parler à un autre adulte que mon mari, ça ira mieux quand je vais reprendre le boulot. Et là, ça va pas du tout, mais pas du tout. Surtout qu'il y a eu le deuxième confinement, et à partir de là, j'étais en télétravail total. Mmh. Donc au final, le lien avec les gens, bah, y en a pas vraiment. Et donc après, dans ma tête, ça a été... puisque entre-temps, on avait eu la convocation pour voir la généticienne, pour avoir les résultats du karyotype, qu'on avait fait aussi tous les examens qu'elle nous avait demandé de faire, parce qu'il a dû avoir une échographie transfrontanellaire, une échographie abdominale et un bilan ophtalmique. Du coup, à la recherche d'éventuels signes... autre signe de malformation pour une éventuelle maladie génétique. Parce qu'il a quelque chose qui s'appelle un chondrome à l'oreille, c'est une petite boule en fait, de rien du tout, mais ça peut être un signe de maladie génétique. Donc moi dans ma tête, on avait rendez-vous le 15 janvier, tous les examens qu'on avait faits étaient nickels. Le 15 janvier, je saurai si mon fils a une maladie génétique ou non, et là ça ira bien parce que je serai plus stressée. J'aurai plus de raison de stresser. Sauf que 3 jours après, quand je me suis encore une fois de plus effondrée en larmes devant mon ordi, j'ai compris que j'allais prendre rendez-vous chez le médecin et qu'en fait, que l'état de Jules n'était plus, n'était plus la cause de ce que je ressentais, quoi.
Ouais, t'avais encaissé beaucoup trop de choses et là tu sentais que ça lâchait.
Bah en fait... bah, j'ai fait une dépression et prénatale et postpartum. Et donc, j'ai eu la chance... Mais en fait, clairement, la secrétaire de mon médecin traitant, je lui ai dit « Je pense que je fais une dépression postpartum, je veux un rendez-vous rapidement, s'il vous plaît. » J'étais assez cash. J'aurais dû demander de l'aide bien avant, mais comme dans ma tête, j'avais ces deadlines de me dire... Déjà, il avait eu un contrôle chez la cardiopédiatre en décembre aussi, Jules, donc j'avais un peu ces deadlines... Quand il y aura tel rendez-vous, tel truc, j'irai mieux parce que je serai plus angoissée, etc. Alors que j'étais bien trop profondément enfoncée dans la dépression pour aller bien, tout court, en fait. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que 2 jours après, j'ai eu un rendez-vous, du coup. Alors, arrêt maladie du jour au lendemain, c'est ma spécialité, ça, de dire à mon chef, j'ai rendez-vous chez le médecin, et puis de sortir de chez le docteur et de lui dire, bon, bah, je reviens pas pendant un mois. Et j'avais aussi un traitement antidépresseur. Il m'avait prescrit des anxiolytiques, mais je les ai pas pris parce que c'était... si je faisais des crises d'angoisse, il fallait que j'en prenne un. Sauf que le problème, c'est que ça venait le soir, et que Jules, même si on l'avait passé dans sa chambre, il se réveillait toutes les nuits, il avait besoin de téter, et je me voyais pas être dans les vapes à essayer de le rendormir, de lui donner le sang, etc. Donc autant j'avais besoin de mes antidépresseurs la journée, etc., parce que fallait juste que je ressente des émotions humaines normales déjà, et encore plus des émotions positives. Et je lui avais demandé de me donner les coordonnées d'une psychologue aussi, que je vois toujours par contre, parce que je suis sevrée de mes antidépresseurs depuis août maintenant. Et en fait, oui, ce qui m'a fait vachement de bien, c'est de pas bosser, de me reposer. J'ai commencé à me mettre à ranger, à décorer, à nettoyer à l'endroit dans lequel, en fait, j'étais enfermée depuis mars 2020, quoi, tout simplement. Et franchement, moi, j'encourage les gens à se dire... en fait, ça, si tu te sens aussi mal, ça viendra pas tout seul d'aller mieux. C'est super dur, enfin... J'avais pas envie hein, de m'avouer que ça allait vraiment pas et que... par contre, faut pas hésiter aussi. C'est pas parce qu'on a un arrêt maladie que bébé, il doit être à la maison. Moi, il allait à la crèche.
Ah, donc t'as eu une place en crèche ?
Oui, mais en fait, il était déjà accepté. Et quand on l'a inscrit, j'ai expliqué qu'il fallait pas... qu'il fallait pas prendre peur en voyant qu'il avait une cicatrice sur la poitrine parce qu'il avait eu une opération, mais qu'il n'avait rien, qu'il n'avait pas de soucis de santé. Donc on m'a dit, ah ok, voilà.
Ah oui. Finalement, t'as expliqué quand même.
J'ai préféré parce que j'avais peur que le jour où on lui change la couche pour la première fois, on lui soulève le body et waouh, il a une énorme cicatrice sur la poitrine. J'ai préféré être honnête, mais c'était facile d'être honnête quand on peut dire à la personne... Il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. C'est un bébé lambda, juste avec une grosse cicatrice. Quoi. Et d'ailleurs, c'est un bébé lambda, parce qu'il se comporte exactement comme un bébé de 20 mois. Il a marché super tôt, en plus.
Oui, donc derrière, il n'y a aucune séquelle motrice ou...
Ah non. Il a... bon, comme certains bébés de son âge, il n'a pas forcément hyper développé la parole encore.
Oui, enfin, c'est comme tous les bébés.
Bon, il dit quand même quelques trucs, mais par contre, la motricité... il est plutôt précoce, enfin il était parce que maintenant il est plus grand, mais il était plutôt précoce au niveau de la motricité. Donc,
Et alors la suite pour Jules, c'est quoi ? C'est des examens de temps en temps ou c'est complètement...
Du coup, pour l'instant, il a un contrôle annuel. Parce qu'en fait, les contrôles ont été espacés la première année petit à petit. Et maintenant, on est passé sur un contrôle annuel, en fait, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment grand... pour exprimer une douleur particulière au niveau de la poitrine, on fait ce contrôle annuel pour vérifier que tout va bien.
D'accord.
Après, les contrôles seront espacés. Par contre, il en aura toute sa vie.
D'accord, ok. Et il a un traitement à prendre ou...
Rien du tout. Rien du tout. C'est vraiment un bébé normal. Il n'aurait pas sa cicatrice, ce serait impossible de savoir qu'il lui est arrivé tout ça, en fait. Ouais.
Et alors, toi, tu disais tout à l'heure que ça faisait peu de temps, finalement, que tu avais compris que... Là, ça y est, il était avec toi pour un long moment, normalement.
En fait, il y a eu deux choses. C'est déjà le fait, du coup, de prendre en charge ma dépression. Ça faisait que j'étais moins mal de base, déjà. Et en fait, arrivé en mars 2021, il y a eu toutes sortes d'anniversaires plus ou moins plaisants, du coup. Parce que son anniversaire, moi, je ne l'ai pas très bien vécu parce que c'était l'anniversaire du pire jour de ma vie. Hein, parce que mon accouchement, je l'ai vécu comme ça.
Ouais.
Deux jours après, c'était l'anniversaire de son opération, donc rebelote. Enfin, en gros, c'était un mauvais moment à passer. Mais en fait, le fait que ça passe, le fait de me dire c'était il y a un an et tout va bien, ça a fait que j'ai réalisé que oui, tout va bien. Je m'angoisserais toute ma vie, déjà parce que je suis quelqu'un de super angoissé. Et qu'en plus, quelle maman n'angoisse pas pour son enfant, mais... mais je pense que c'est de l'angoisse plus modérée. Je me pose plus de questions. D'ailleurs, j'ai des copines, quand leur enfant est malade, elles sont hyper angoissées. Moi-même, quand il a eu une bronchiolite il n'y a pas longtemps, j'étais pas spécialement stressée parce que je me dis, après tout ce qu'il a vécu, ça va aller, il gère, il est costaud, quoi.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Enfin, alors, j'ai l'impression d'être la même personne, mais que j'ai une vision différente du monde, en fait. Parce qu'il y a des subtilités, en fait, dans le monde que je ne saisissais pas. Il y a des choses que je ne voyais plus, parce que je vois maintenant avec le regard de mon fils aussi. Et puis, oui, c'est-à-dire que j'ai les mêmes intérêts, les mêmes convictions, etc. Mais tout simplement, oui, sans mon fils... ça n'a pas grand intérêt, quoi. Tout est pareil et tout est différent en même temps.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Maman de banlieue, ça fait que justement, je suis suffisamment proche de Paris pour avoir tout l'aspect culturel, tout l'aspect historique, etc. Même si pour l'instant, je pense qu'il est un peu petit pour que je l'emmène dans des musées, etc. J'ai ça à portée de main. Et en même temps, j'ai la campagne aussi à côté. Donc j'ai un peu le bon mélange des deux.
Quel est ton lieu kids-friendly préféré?
Là, avec le Covid, le seul endroit où on l'emmène, c'est la piscine pour faire le bébé nageur. Mmh. Donc, la piscine.
Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ce prévu en famille?
Rien que pour moi, ce serait recommencer à écrire mon blog. Parce que j'ai mis une petite pause, justement, parce que ça allait aborder tous les sujets accouchement, opération, que je me sentais pas prête. Et puis en famille, ce serait déjà, je pense, un week-end en amoureux, parce que ça n'a pas eu lieu depuis 2019.
Oui.
Et ce serait bien si on pouvait arriver à se faire des vacances à trois, parce que pareil, j'ai fait des vacances avec Jules, mais pas à trois.
Merci beaucoup, Samantha.
Mais je t'en prie.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.